France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's in the house.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Un jour dans le monde, c'est donc un jour à Gaza et au-delà.
Bonjour de Gaza à la radio nationale en France. Bonjour à qui m'écoute à ce moment. Je sens qu'on est puni de la manière la plus extrême de ce monde. Pourquoi ils traitent avec nous comme ça? Pourquoi nous priver de toutes les choses? Pourquoi maintenant il y a la famine? Pourquoi moi, je ne peux pas offrir mes enfants de la nourriture? Pourquoi? Parce que je suis palestinienne?
Elle s'appelle Sama Hamdam, elle a 40 ans, elle a deux enfants, elle a été déplacée 11 fois avec d'autres. Elle va nous accompagner pendant toute cette heure par ses notes vocales, le seul moyen, vous le savez, de communiquer avec Gaza. Et vous allez voir qu'on va parler bien sûr de déplacements forcés, on va parler de fatigue extrême, on va parler de mort. Mais on va aussi parler de maquillage, on va parler d'études à reprendre un jour. On va aller chercher aussi les gens ordinaires qui sont derrière les champs de ruines aujourd'hui. Bonsoir Vincent Lemire.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous, l'historien de cette heure que nous allons passer ensemble. Ensemble, c'est vous. Vous êtes enseignant à l'université Gustave Eiffel. Je cite la BD, l'histoire de Jérusalem aux arènes avec les dessins de Christophe Gauthier. On attend, je vous le dis, on attend Iyad Alastal, qui est réalisateur documentariste, qui a quitté l'enclave de Gaza il y a un an. Il est en train de courir dans les couloirs, là, au moment où on se parle. Mais on parlera longuement de son film qui s'appelle Pour l'honneur de Gaza et qui nous montre justement ces visages-là. Est-ce que vous diriez, Vincent Lemire, que ça a été pendant longtemps dans ce conflit qui dure maintenant depuis presque deux ans l'impensé, en fait, les visages, les histoires des Gazaouis, les noms et les prénoms même.
Ouais, les noms et les prénoms, je l'ai dit sur ce plateau, je crois, un matin, j'ai dit Gaza, c'est des chiffres, et les otages israéliens, c'est des noms et des histoires. Et c'est ce qui nous a manqué beaucoup. C'est ce que, je crois, le public français commence à découvrir. Il a envie de voir des visages, des témoignages. Il a envie aussi qu'on lui parle de Gaza avant le 7 octobre. Gaza avant le 7 octobre, c'était pas le paradis sur Terre. Ouais. On dit souvent prison à ciel ouvert, mais c'était aussi un lieu de vie, c'était un lieu que moi j'ai connu en la dernière fois, c'était en juin 2023. C'était un lieu d'une énergie incroyable. C'est des gens qui arrivaient à faire tout avec presque rien, avec des imprimantes 3D, ils vous faisaient une exposition, ils vous faisaient... C'est pas du tout pareil de ce point de vue-là. La sociologie de Gaza, c'est pas la Cisjordanie. On dit toujours 80% des habitants de Gaza sont des réfugiés, mais ça veut dire aussi qu'il y a une agilité, il y a une énergie incroyable à Gaza, qui existe encore aujourd'hui, parce que si en fait les 2,3 millions d'habitants de Gaza survivent, c'est parce qu'ils ont cette énergie, cette agilité. Je pense qu'aucune société au monde ne résisterait à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Hein.
Est-ce que c'est justement parce qu'il n'y a plus moyen aujourd'hui de l'avoir, cette agilité-là, en fait, malgré toute à la fois la bonne volonté et puis cette histoire, vous le dites effectivement, de pouvoir jouer du système D depuis si longtemps. Est-ce que c'est pour ça aujourd'hui qu'il se passe réellement quelque chose? Parce que là, il y a de la famine, parce que là, il y a quand même des choses qui étaient déjà terribles et on en parlait déjà évidemment avant. Il y a un tournant désormais. À votre avis, le tournant, il vient d'où ?
Il y a une bascule et le tournant, il vient de la famine. Parce que, vous avez raison, en fait, quand une mère de famille ne peut plus nourrir son bébé au sein et que si elle le fait, elle meurt, elle, de dénutrition, eh bien, si vous voulez, je pense que ça nous touche tous, mère de famille, père de famille, ancien enfant, enfin, en fait, humain. C'est terrible à dire, mais jusqu'ici, on avait quelque chose qui ressemblait à une guerre, même si c'était une guerre très 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 asymétrique avec une armée d'un côté et des civils de l'autre, mais on va dire que c'était une armée qui bombardait un territoire. Donc c'est des bombes, et quand on est à Paris ou en région ou quoi, on se dit bon bah nous on n'a pas de bombes sur la tête. Quand on peut plus donner de lait maternisé à ses enfants et que on est acculé à la famine, là on touche, je pense, au cœur de l'humanité, et c'est pour ça que beaucoup de gens réagissent aujourd'hui alors qu'ils ne réagissaient pas il y a encore 3-4 semaines.
Est-ce que vous diriez que ce sont les sociétés civiles qui désormais arrivent à faire bouger les dirigeants, ou est-ce que ça se passe en même temps? Parce que je pense pas seulement à Paris, Ottawa et Londres qui sont ensemble récemment. Aujourd'hui encore, c'est l'ambassadeur de Suède qui convoque son ambassadeur, la Suède pardon, qui convoque convoque son ambassadeur. Je pense surtout à Friedrich Merz, en fait, en Allemagne. Ça, pour le coup, que lui dise à un moment « ça suffit », ça dit quand même quelque chose de ce qui est en train de se passer, y compris dans cette communauté internationale qui porte plus ou moins bien son nom, d'ailleurs.
Donc, c'est vraiment les deux. C'est l'opinion publique, c'est les consciences humaine internationale, et c'est les dirigeants en même temps, parce qu'ils écoutent la radio, ils lisent la presse. Ce qui se passe en Allemagne, vous avez raison, c'est absolument majeur. Pourquoi ? D'abord parce que quand on parle d'embargo sur les armes pour l'Europe, en fait, les armes, elles sont allemandes. Un tiers de l'armée israélienne, c'est une armée américaine, et deux tiers, pardon, des armes israéliennes, c'est des armes américaines, et un tiers, c'est des armes allemandes. Donc on a le verrou allemand. Et on a évidemment le passé historique. La sécurité d'Israël, c'est une raison d'État en Allemagne. Ça veut dire que c'est un devoir constitutionnel de tous les dirigeants allemands, quelle que soit leur couleur politique. Aujourd'hui, il y a un débat absolument passionnant qui se passe en Allemagne et que j'aimerais bien qu'on ait en France. Ce débat, c'est la sécurité d'Israël est une raison d'État constitutionnelle. On doit protéger la sécurité d'Israël. Eh bien, c'est précisément au nom de cette raison d'État qu'on doit intervenir aujourd'hui, qu'on doit ceinturer le gouvernement israélien contre son gré, parce que Israël est en train de se mettre au banc des nations, comme l'a dit Yair Golan, le chef de l'opposition israélienne. Il a dit, Israël est en train de devenir un État paria, comme l'Afrique du Sud autrefois. Il sait très bien quelle est l'étape d'après. L'étape d'après, c'est boycott international, embargo total. Or, Israël, c'est pas l'Afrique du Sud. Israël tiendra beaucoup moins longtemps que l'Afrique du Sud. Israël ne produit pas de voitures, pas de blé, pas de pétrole, et ne fait que de la high-tech, et donc est dépendante des marchés mondiaux. Israël, en fait, ne peut pas se permettre d'être isolé sur la scène internationale.
On va mettre les pieds dans le plat, Vincent Lemire, parce qu'effectivement, ça, c'est le débat qui secoue l'Allemagne. Nous, le débat qui nous secoue en France, c'est de savoir s'il faut employer le mot génocide ou pas l'employer. Si je vous pose la question, c'est parce que c'est encore une fois la une de Libé. Demain, il y a 300 signataires, et pas des moindres, hein, des intellectuels, des écrivains qui disent il faut arrêter de parler d'horreur, il faut le prononcer, ce mot de génocide. Vous, vous êtes plutôt dans guerre d'éradication. Jean-Pierre Filius, ce matin, sur France Inter, parle de guerre inhumanitaire. D'abord, c'est intéressant. Pourquoi chez nous, il y a ce débat-là, à votre avis ? Pourquoi nous, on est dans cette sémantique-là ?
Alors,
qui a du sens, hein, par ailleurs.
Alors, elle a totalement du sens, mais c'est vrai que le débat sémantique, il nous a éloignés du sujet pendant presque un an. Parce que c'est un débat très très technique, le débat sur le génocide. Moi, j'ai parlé depuis longtemps de guerre génocidaire ou d'intention génocidaire parce que j'ai lu et j'ai reproduit des déclarations des ministres du gouvernement et même des ministres du cabinet de sécurité qui disaient « il faudra qu'à la fin de la guerre, il reste 100 à 200 000 habitants dans la bande de Gaza ». Ça, ça s'appelle une opération de nettoyage ethnique. Et depuis le tribunal pénal international sur l'ex-Yougoslavie en 1994, une opération de nettoyage ethnique intentionnelle, c'est constitutif de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide. Pourquoi est-ce que le terme de génocide est utile ? Parce que, un, il permet la compétence universelle des tribunaux, et donc ça veut dire que les dirigeants israéliens peuvent être inquiétés dans n'importe quel pays, donc c'est un moyen de les arrêter ou de les freiner. Deux, parce que le terme de génocide embarque avec lui une notion de prévention. S'il y a intention et risque génocidaire, alors tous les chefs d'État signataires de la Convention de 1948 sur la répression et la prévention du génocide ont le droit, mais surtout l'obligation d'intervenir. Donc vous voyez, quand on utilise le terme de génocide, il peut faire débat, mais en tout cas, il a cette utilité parce que ça oblige les chefs d'État à se mettre en mouvement pour prévenir ce génocide.
La promesse de cette émission, Vincent Lemire, et en attendant Yad Alastal qui est en train de courir dans le hall, la promesse c'est d'écouter Gaza, Israël aussi, d'écouter aussi Gaza, faute d'entrer dans l'enclave, c'est à Ramallah que nous allons d'abord. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Simon, avec deux Gazaouis que vous avez rencontrés, qui sont établis en Cisjordanie et dont les proches, évidemment, sont tous à Gaza.
Oui, le premier que nous avons rencontré passe ses journées scotché au téléphone. Il s'appelle Abdul Salam Abou Askar. Coup de fil à sa nièce.
Alors ?
Maman.
Elle est physicienne, 38 ans, 3 enfants. Salut, c'est ton oncle.
Salut mon chéri, comment vas-tu ?
Et toi, quoi de neuf ?
Personne ne va bien. La famine a commencé à Gaza City.
Vous n'avez pas reçu l'aide humanitaire ?
Non, on n'a rien reçu, rien de rien. On ne tient même pas debout à cause du manque de nourriture et d'eau.
Vous n'avez ni farine, ni sucre ?
Non, ça fait 2 mois que j'en ai pas vu au marché.
Il termine comme toujours, faites attention à vous. Dans les locaux de sa société de production Le Film, où il nous reçoit, télé en boucle, il dit qu'il appelle 60 personnes par jour.
Chaque fois que j'entends qu'il y a eu un bombardement sur un quartier où j'ai un ami, un collègue, un membre de ma famille, j'appelle pour savoir s'ils sont vivants ou morts. En pratique, je suis à Ramallah, mais en réalité, je vis à Gaza.
Abdul Salam raconte qu'il a perdu une autre nièce, son mari, leurs 2 enfants, 6 cousins et des dizaines d'amis. Sur son bureau, le cendrier est plein.
Avant la guerre, je fumais un paquet par jour. Aujourd'hui, 3. Je fume pour mes amis qui n'ont pas de cigarettes là-bas.
Nous voici dans le bureau de Brahim, bâtiment délabré, portrait de Yasser Arafat à l'entrée. Lui dit qu'il a dû insister la semaine dernière pour avoir une photo de sa famille. Sur un canapé gris, son père, sa sœur, sa mère, sourire fatigué. Brahim explique qu'il connaît sa famille, que ce n'est pas un vrai sourire, que c'est juste pour la photo. Il les voit amaigris et sur leur visage, la peur et l'inquiétude. Aucun signe de vie. Il dit aussi que tous les Palestiniens, ici ou là-bas, sont profondément déprimés.
Regarde où on en est, au point où la mort à Gaza est une libération.
Et il tient à nous raconter que ses filles, des jumelles, sont nées ici quelques semaines après le début de la guerre, il y a 1 an et demi, et qu'il n'oubliera jamais ce coup de fil à ses parents depuis la maternité.
C'était un moment surréaliste. Aucun de nous n'arrivait à parler. Ça symbolise notre vie en tant que Palestiniens. Certains vivent, mais pour d'autres, la vie s'est arrêtée depuis 1 an et demi.
Brahim pense que toute cette violence est en train de créer une génération qui ne voudra qu'une chose. La vengeance.
Merci beaucoup Simon Le Baron, vous restez pas loin parce qu'on va se retrouver dans un petit instant, vous allez nous raconter aussi ce que vous avez glané à Tel Aviv et c'est intéressant, on va rester sur cette remarque sur créer une génération qui va vouloir se venger. Avant cela, je voudrais vous présenter Iyad Alastal, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes réalisateur documentariste, vous avez quitté l'enclave il y a 1 an, donc en février 2024, vous l'avez quitté avec des images qui sont autant de portraits de Gazaoui. Le film s'appelle Pour l'honneur de Gaza, nous en parlerons très longuement. Juste un mot d'abord, Iyad Alastal, je voudrais savoir comment on vit en France quand on est Gazaoui et que le Gaza qu'on a quitté il y a 1 an n'est plus le Gaza d'aujourd'hui, c'est pire aujourd'hui.
C'est très difficile pour nous, tous les Palestiniens. Moi, comme il a dit l'invité sur la radio, qu'on est physiquement en dehors de Gaza, mais toujours la tête et le corps, ils logent à Gaza parce qu'on a toujours nos proches, nos siens, nos amis, toutes les traces de la vie qu'on a connues à Gaza. Moi, j'ai connu Gaza dans plusieurs périodes, une période entre parenthèses, la période de la paix, que Gaza n'a jamais connu la paix, mais c'était un peu calme par rapport à aujourd'hui. Mais quand même, il y avait corps de la vie.
Un peu calme, mais on parle de avant 2005 même. Est-ce qu'on revient aussi loin en arrière ou pas ?
On revient très très en arrière, ouais. Parce que Gaza, entre 2005 et 2023, c'était un autre Gaza. Avant, c'était Gaza que j'avais pas encore conscience par rapport à comment c'était, mais c'était l'époque de mes parents, mon frère l'aîné. Mais aujourd'hui, c'est la génération de mes enfants, mes filles, qui ont connu Gaza, qui étaient conscients par rapport à toute la vie là-bas, toute la beauté de Gaza, les quartiers, les rues, les amis, l'école, le patrimoine. Mais malheureusement, quand on regarde aujourd'hui Gaza, ça, c'est la rage, c'est la révolte, parce que il n'y a plus rien aujourd'hui à Gaza.
Vous avez réussi à sortir, il y a quelques personnes qui ont réussi à sortir, et notamment des cinéastes comme vous, parfois des artistes, des gens qui pouvaient trouver un point de chute et aussi pouvoir en parler. Pardon, mais c'est la question qu'on est obligé de poser. Dans votre famille proche et votre famille éloignée, vous avez perdu combien de personnes ?
Alors, la famille Alastal, c'est considéré comme une tribune dans le sud de la bande de Gaza. Au moins, j'ai perdu 300 personnes de ma famille. À chaque frappe, il y avait au moins 20, 40, 50 personnes qui ont été tués. Ça, c'est la famille lointaine. Et certainement, il y avait des proches, des cousins, des cousines qui ont été ciblés et tués par l'armée israélienne. Le mal allait toucher tout le monde dans la bande de Gaza. À mon titre personnel, j'ai laissé à Gaza ma mère, mes frères, mes neveux, mes nièces, qui vivent une situation très, très, très dégradée depuis plus de 18 mois aujourd'hui, dans des conditions inacceptables, très, très dégradées.
Et Yad El Astal, pardon, on va parler de votre film dans un instant. Est-ce que tous les gens qui sont dans ce film, qui donc a été fait maintenant il y a plus d'un an, sont encore vivants?
Ils sont vivants, mais parmi eux, il y en a ceux qui souhaitent la mort de vivre aujourd'hui cette situation qui est très difficile. Son nourriture dans une famine est très, très marquée, très importante, avec un manque de soins, avec où il y a dignité, où il y a leur dignité qui a été oppressée avec l'atrocité de cette guerre. Donc, physiquement, certains, ils sont sains. Il y en a ceux qui ont été blessés. La majorité, ils se sont déplacés de nouveau. Si on regarde aujourd'hui la carte de la ville de Khan Younis, elle demande presque de 90% des habitants de la ville de Kéti d'aller jusqu'à Al-Mawazi.
Vincent Lemire, je voudrais qu'on revienne juste un instant avant de replonger dans le film sur la dernière phrase du reportage de Simon Le Baron. À l'instant, tout ça est en train de nous fabriquer des générations de gens en colère et même très en colère. Est-ce que oui, c'est bien ça, une génération de gens qui voudront se venger, ce que nous avons en face de nous? Est-ce qu'il y a un moyen pour que ce soit pas le cas, précisément?
Mais c'est plus qu'une génération en colère. Rendez-vous compte que les enfants de Gaza sont déscolarisés depuis 18 mois. Et plus que ça, aujourd'hui, ils ont peur de l'école. Les quelques écoles qui restent sont ciblées. Et il y en a encore eu une aujourd'hui avec plusieurs dizaines de morts. Donc les enfants ne veulent plus rentrer dans une école parce qu'ils savent que les écoles sont des cibles. Donc, c'est plus que de la colère, ça va être des traumatismes absolument, absolument atroces. Ça va être vivre la faim, voir ses parents qui ne peuvent plus vous donner à manger, qui sont obligés de prendre des décisions absolument cornéliennes. Gaza, c'était plus qu'une société résiliente. Moi, c'est un terme, c'était plus qu'une société résistante. C'était, parfois je disais, c'est une résistance transformée en société. Et on le voit encore aujourd'hui. Mais à un moment, la famine et le manque d'eau, personne ne peut résister à ça. Personne ne peut. Donc, la résistance de Gaza est en train de céder face à ce qu'aucun humain ne peut supporter. C'est pour ça que je trouve le titre du documentaire très important pour l'honneur de Gaza. En ce moment, c'est des termes honneur, dignité, humanité. En fait, ça y est, on en est là. On en est au moment où nos humanités communes sont atteintes dans leur cœur. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde se met à bouger de façon presque transpartisane aujourd'hui.
Moi, Asma, j'ai perdu moi-même. J'ai perdu Asma, j'ai perdu mes rêves. J'avais beaucoup de rêves. Je suis trop énervée, j'étais pas comme ça avant. Avant la guerre, j'étais professeure, j'avais un rôle dans la société. Je m'habillais très bien, je me maquille. J'avais un plan pour ma vie, j'avais des relations, j'avais des amis. Bon, on peut pas dire que j'avais une vie en rose, mais j'étais heureuse de ma vie.
Asma qui décrit très bien ce que vous disiez, Vincent Lemire, tout à l'heure, c'est-à-dire Gaza n'était pas un endroit tout rose, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on arrivait à vivre, en tout cas autant qu'on le pouvait, à l'intérieur de cet enclave. On se posait la question, c'était juste avant que vous arriviez, Yad El Astal, de ce qui avait changé, ce qui avait été le tournant. Et peut-être que l'un des tournants, c'est des gens comme vous, ce sont des images qu'on commence à voir, qui sont faites par des réalisateurs, par des documentaristes. Il y a Fatima Asuna qui a participé à ce film qu'on a vu à Cannes et qui est morte 3 ou 4 jours seulement avant sa présentation. Au fond, il y a même Nadav Lapid du côté israélien qui montre des choses qui peuvent être même perçues comme extrêmement violentes. Toutes ces images ont commencé à arriver. C'est pour ça aussi qu'il se passe des choses et que les réalités changent. Non, c'est grâce à vous, Yad El Astal. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous aviez besoin de sortir? Parce qu'il fallait le montrer, tout ça.
Je prends juste l'occasion pour dire que c'était un hommage pour les 210 journalistes à Gaza qui ont été tués, qui étaient le miroir de Gaza pour l'étranger. Comme vous le savez, aucun journaliste étranger qui a pu entrer dans la bande de Gaza. Et donc, nous, les journalistes, les réalisateurs, on a pris cette responsabilité civile. C'était un devoir de notre côté, les Palestiniens de Gaza. Chacun avait une responsabilité de prendre son rôle pour participer à montrer ce qui se passe à Gaza. On a pris la décision de filmer, de donner la parole à des gens, à des citoyens, des déplacés. On n'a pas envie d'entendre toujours les chiffres de GT, les journaux, les grands médias qui montrent les Palestiniens comme des chiffres. Non, les Palestiniens, ils ont des projets, ils ont des histoires et ce sont des gens normaux comme les gens ici à Londres, en France, à Paris, partout dans le monde. Pour ça, on a filmé, on a insisté de montrer les Palestiniens comme il faut, de leur rendre leur humanité.
On va en entendre deux extraits de votre film et de cette humanité-là. Je voudrais d'ailleurs les citer dans votre film. Il y a un pêcheur qu'on entendra dans un instant. Il y a aussi Odeh El-Khattari, il est dentiste. Il y a Wissam Yassine, elle est journaliste, elle est aussi comédienne. Il y a Youssef Alindi, il est marionnettiste. Il y a Faraj Al-Simouni, c'est un ancien prisonnier. Il raconte d'ailleurs des choses absolument terrifiantes. Il y a Sama, pauvrette, elle a 10 ans, elle a perdu ses cheveux tellement elle a eu peur. Il y a Noura El Ramlaoui, dont on écoutera aussi un petit extrait. Je voudrais d'abord qu'on écoute le... Comment s'appelle le pêcheur ?
Le pêcheur, c'est Abou Jamal.
Eh bien, écoutez-le. Écoutez ce qu'il dit, ce pêcheur. On a voulu passer cet extrait parce que ce qu'il dit, Yann Alastal, c'est qu'il a choisi de couper sa famille en deux. Au cas où il y aurait un bombardement, comme ça, il n'y en a que la moitié qui meurt. Enfin, c'est aussi.
C'est la décision de toutes les familles palestiniennes à Gaza.
Parce elle a pris cette décision, la vôtre de famille ou pas ?
Notre famille, bien sûr. Déjà, moi, le fait que j'ai laissé ma femme sortir en France avant moi, c'était une décision pas facile. Qu'elle sorte de Gaza toute seule avec mes enfants, c'était une décision pas facile pour nous de couper. Moi, j'ai resté à Gaza. Elle savait pas qu'est-ce qu'il va m'arriver. Donc, c'est une décision qu'on le prenne souvent à Gaza quand il y a des bombardements intensifs pour au moins sauver quelques personnes de la famille. Aujourd'hui, on a un terme à Gaza qui s'appelle les seuls survivants. Ce sont des personnes qui ont resté sains et épargnées d'un bombardement, d'un massacre. Ce sont les seuls témoins de ce qui se passait.
Le deuxième extrait que je voudrais qu'on entende et qui m'a terriblement ému, c'est Nour. Elle s'appelle Noor Al-Ramlaoui. Elle a 20 ans, elle veut être architecte. Et ce qu'elle fait, elle a un passeport qui est périmé. Et ce qu'elle est en train de nous raconter là, c'est que, puisque le passeport est périmé, elle dessine les pays comme des visas où elle aurait voulu aller. Elle dit d'abord c'était la Turquie, parce qu'elle est en Turquie, c'était mon rêve, j'ai perdu ma bourse d'études. Le deuxième dessin, c'était pour la France, parce que j'ai pas pu y aller, et son architecture me fascine. Elle dit ici, il devait y avoir un tampon officiel d'entrée dans le Liban, notamment. L'Italie était aussi un pays où je souhaitais aller parce que son patrimoine est magnifique. Elle est bouleversante, cette jeune femme. D'autres aussi, mais elle est vraiment
bouleversante. Bien sûr, elle est bouleversante avec tous ces témoignages parce qu'elle décrive une problématique que les Palestiniens de Gaza surtout confrontent depuis des années et des années. C'était la liberté de circulation, le voyage. Et là, elle se trouve devant des bombardements intensifs, permanents, tous les jours.
Et vous voyez, en écoutant Noor, Vincent Lemire, je repense à ce que vous nous disiez tout à l'heure sur la colère. Est-ce que cette colère allait pouvoir générer derrière ? Quand j'entends Noor, je me dis qu'il peut y avoir aussi un autre après, et que les choses récupérables de ce pays, c'est Noor. C'est Noor parce que c'est une génération qui veut faire des études, une génération qui veut voir le monde, qui veut avoir effectivement la même vie que n'importe quel jeune de 20 ans aujourd'hui.
Oui, oui, moi c'est exactement ce que j'ai perçu quand j'ai été à Gaza. Il y a une écoute, une soif d'apprendre et de l'extérieur. Il y a un niveau de diplôme à Gaza qui est incroyable. On parle d'une société, d'une des sociétés arabes.
Surtout pour les femmes d'ailleurs.
Mais oui, mais vous n'imaginez pas le département de français de l'université Al-Azhar de Gaza, c'est juste hallucinant quoi. Il y a des photos du Mont Saint-Michel au mur.
Bien sûr.
Et c'est des.
Et on l'entend, on reçoit des notes vocales en français.
Voilà. Ouais. C'est hyper important en fait qu'on entende enfin les voix palestiniennes en France. Et effectivement, c'est comme si Gaza venait à nous. Noor, elle s'appelle Al-Ramlaoui. Ça veut dire aussi qu'elle vient de l'extérieur, elle vient de la Palestine. Palestine, Ramla, voilà. Il y a des Al-Naboulsi à Gaza. Tout le monde sait d'où il vient. Hein. Tout le monde c'est Gaza, c'est la Palestine en miniature. Donc, les Palestiniens comme vous, Yad, peuvent nous parler de l'intérieur. Nous, historiens, ce qu'on peut vous dire, c'est que Gaza, avant le 7, bien avant le 7, c'était... Alors, un oasis, ça c'est vrai. Moi, quand je lis les archives ottomanes, quand la famine menace à Jérusalem, le gouverneur de Jérusalem, il dit, on va aller chercher du blé, des figues et du raisin à Gaza. Gaza, c'est le jardin d'Éden, ça c'est sûr. Et puis, les historiens encore plus peuvent vous dire que c'est le berceau de l'humanité. Mmh. Quand vous rentrez au musée d'Israël aujourd'hui, tout de suite sur votre gauche, vous avez des sarcophages anthropoïdes qui viennent de Deir el-Bala, qui sont du 14e siècle avant notre ère, et qui sont absolument sublimes, et qui vous raconte que Gaza, ça a toujours été le carrefour entre l'Afrique, le Moyen-Orient et le monde eurasiatique, quoi. Donc, voilà, il faut qu'on arrive à penser à Gaza avant le 7 octobre pour pouvoir imaginer Gaza après, si le plan de nettoyage ethnique peut être mis en échec, parce que l'urgence de ce soir et de demain matin, c'est ça, c'est d'empêcher ce nettoyage ethnique, sinon... Mmh. Il n'y aura plus.
On va retrouver Simon Le Baron dans une minute, qui a été justement la rencontre d'Israéliens. On disait tout à l'heure que les images étaient ce qui faisait tanguer les sociétés. Des images, on a bien compris, qui desservaient évidemment Israël, le fameux état paria d'Yair Golan. Mais en même temps, ce Gaza dont parle Vincent Lemire, Yad Alastal, de toute façon, les Israéliens l'ont-ils vu? L'ont-ils connu? Sont-ils, eux, capables aussi de parler du Gaza d'avant? Ou pas du tout?
Je pense que les Gazaouis, c'est eux qui peuvent parler de Gaza, comment c'était, comment elle est devenue. Parce que même un historien, avec tout mes respects pour les historiens, quand ils arrivent à Gaza, ils n'arrivent pas encore à décoder comment c'était la vie à Gaza. Donc ce sont des éléments précieux, précises, que nous, les Palestiniens de Gaza, qu'on connaît plus que personne, et le travail aussi des historiens, des archives, ça aide.
Je vous pose la question parce qu'on a évidemment envie de savoir dans ces moments-là comment ce qui se passe, enfin comment se fait-il que la société israélienne puisse être perméable en fait à ces images qui nous viennent, à ce que vous nous dites et ce que vous nous racontez. Simon, c'est vous qu'on retrouve, vous êtes toujours là, Simon?
Oui.
Vous avez été à Tel Aviv, évidemment, vous y avez passé un peu de temps pour essayer justement de répondre à cette question. Que voient les Israéliens de la guerre? Que voient-ils de la famine? Et surtout, que ne veulent-ils pas voir également, Simon?
Oui, un petit tour dans un quartier populaire qui commence dans une échoppe de pistaches et fruits secs. Ici aussi, comme à Ramallah tout à l'heure, la télé est allumée en permanence. Ilan, le patron, rigole. C'est elle qui me regarde toute la journée. Il veut dire que lui n'y jette plus qu'un œil distrait. Même dans les pubs, il parle de la guerre, même dans les pubs. Mais quelles sont les images qui passent? Maya, militante pacifiste, a sa réponse.
Tout ce que l'Israélien moyen voit aux infos tourne autour du 7 octobre. Il n'a aucune idée de ce qui se passe à Gaza.
De fait, quand on montre au caviste Royi, au milieu de ses bouteilles, la photo d'un enfant gazaoui blessé, visage en sang, publiée par un journal français...
Non, je n'ai rien vu de tel. Je ne pense pas qu'on ne peut pas savoir. C'est possible que ça existe.
Il dit pourtant qu'il est abonné à plusieurs sites d'actualité. Ces derniers temps, cette Israélienne mariée à un Français a malgré tout constaté dans les médias un début de changement.
Ces dernières semaines surtout, le public israélien est de plus en plus confronté aux images qui sortent de Gaza aussi. Ouais.
Mais le problème, selon Roni, ce n'est pas tant le manque d'informations que le traumatisme toujours bien trop présent.
Les Israéliens ont tendance à se concentrer sur leur douleur, qui est immense, et ils ont peut-être du mal à regarder aussi la douleur des autres.
Et on en a eu la confirmation un peu plus loin. Petit kiosque de bord de route, derrière le comptoir, deux amies. Elles s'appellent Shula et Shuli. La première, Shula, trouve qu'on montre trop la situation humanitaire des Gazaouis. Parce qu'aucun d'entre eux là-bas n'est innocent. Et en même temps, elle dit que toutes ces images sont fausses, que c'est un mensonge. Le gouvernement israélien empêche toujours, de fait, la presse étrangère de travailler sur place. Shuli, elle, a deux fils dans l'armée.
Je ne regarde plus la télévision. Je veux juste entendre mes enfants au téléphone me dire que tout va bien.
Alors évidemment, les médias montrent en immense majorité des images à la gloire des soldats. Mais ici aussi, celles des souffrances palestiniennes existent à condition de vouloir les voir et de leur accorder du crédit. Sur la plage, Raphaël est en pleine partie de raquette. Ce franco-israélien installé ici depuis 10 ans voit dans ces images, lui... une guerre comme les autres.
Bien sûr qu'on le voit, bien sûr qu'on a accès. On voit nos morts, mais on voit les leurs. Mais on a conscience que c'est une guerre. On se gargarise pas, en fait, des morts à Gaza. On n'est pas en train d'allumer des bougies et faire la fête à chaque Gazaoui qui tombe. C'est une vraie guerre, tout le monde paye le prix.
Au-dessus des transats passe un hélicoptère. Gaza est à 50 km.
Merci beaucoup, Simon Le Baron. J'ai deux questions parce que le temps court vite. Iyad Alastal, je voudrais savoir si vous comptez, vous, sur la société civile israélienne à un moment, si vous vous dites cette société civile israélienne finira par se lever. On a parlé d'Yair Golan tout à l'heure, avant que vous arriviez. Il y a des voix qui commencent quand même à monter dans cette société. Vous comptez là-dessus ou pas du tout?
En fait, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en Israël, les manifestations, on est conscient à Gaza que ce n'est pas à l'intérêt des Palestiniens. C'est-à-dire que ce n'est pas pour arrêter la guerre et et rendre hommage aux Palestiniens, c'est pour libérer les otages. C'est l'étape qu'ils veulent. Et après ça, moi, je regarde de loin qu'est-ce qu'ils produisent, les élections en Israël depuis des années et des années. On voit qu'est-ce qu'ils produisent, un gouvernement d'extrême droite. Aujourd'hui, on a vu aussi la jeunesse israélienne, comment elle attaque la mosquée de Al-Aqsa et pour construire le temple là-bas. Et donc, il y a peu d'espoir, heureusement, franchement, il y a peu d'espoir à mon titre personnel, mais peut-être il y en a d'autres qui sont espérés. Mais on voit, il faut qu'on soit réel aujourd'hui, on voit comment tout l'État israélien mène une vengeance contre tous les Palestiniens. Et là, on en vient longtemps aussi dans les témoignages qui étaient présentés.
Vincent Lemire, moi j'ai un souvenir très très précis. Lorsque nous sommes allés avec cette émission, c'était peu de temps après le 7 octobre, en Israël, je me souviens de cette femme qui dit « De toute façon, nous avons toujours été seuls, nous sommes toujours seuls, nous, Israël, et nous nous battons seul. » Donc comme si ça, de toute façon, était terriblement intégré. Et ce que j'entends aussi, vous pourrez répondre de à la fois dans le reportage de Simon à l'instant, de toute façon, c'est une guerre comme les autres. Donc il y a cette espèce d'idée d'état de guerre permanent, en fait, de ce pays, qui donc met celle-ci sur le même niveau que les autres,
mais
finalement.
Les deux, c'est pas vrai. D'abord, c'est pas une guerre comme les autres, c'est pas une guerre conventionnelle, c'est pas comme la guerre contre l'Égypte ou la guerre contre le Liban, armée contre armée. C'est des bombardements de civils, premièrement. Et puis c'est pas vrai qu'Israël est seul. La bombe nucléaire israélienne, c'est une bombe française. L'armée israélienne, jusqu'en dans les années 60, c'était une armée française et d'Europe centrale. Aujourd'hui, c'est une armée états-unienne. Donc, et ce que savent intimement les Israéliens, c'est qu'ils ne pourraient pas tenir sans le soutien américain. S'il y a un embargo sur les armes des États-Unis demain, la guerre s'arrête demain soir. Mmh. Donc, voilà, quand ils regardent
une
carte...
Les Américains ne feront pas, par ailleurs.
Non, mais par contre, comptons sur nos propres forces. L'Europe, c'est le premier partenaire commercial d'Israël, c'est le premier partenaire académique, scientifique. S'il y a une suspension de l'accord d'association entre l'UE et Israël, ça va bouger. Cet accord d'association, il a été signé en 1992 pendant les accords d'Oslo. Et en face, il devait y avoir la reconnaissance de l'État palestinien. Et c'était pour récompenser le gouvernement israélien qui allait reconnaître l'État de Palestine. Vous vous rendez compte, c'était en 1992. Cette suspension, elle doit intervenir maintenant. Et je peux vous dire que ça aura énormément d'écho dans la société israélienne, même chez les gens de droite et même chez les gens d'extrême droite.
Je voudrais qu'on vous remercie tous les deux chaleureusement et retourner à Jérusalem. Je voulais quand même vous signaler au passage que Benjamin Netanyahou dit qu'il espère faire une annonce sur les otages aujourd'hui et demain. C'est ce qu'il dit, ce qui fait suite aussi. Vous avez entendu peut-être dans le journal Hamas qui est prêt à accepter une proposition de trêve dont on ne sait pas encore très bien de quelle nature elle sera. En tout cas, probablement des nouvelles sur certains otages. Il en reste 20, je parle sous votre contrôle, 20 vivants.
20 ou 21 qui seraient
c'est ça, qui
vivants,
sont encore
Trump aurait des informations, oui.
Merci. Vraiment, je ne veux pas qu'on termine sans rendre aussi un hommage, on l'a un peu évoqué ensemble tout à l'heure, à ceux qui nous aident à travailler à Gaza, qu'on entend très régulièrement, notamment par des notes vocales ici, entre autres grâce à Étienne Monin, mais évidemment aussi grâce à vous. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Notre correspondant à Jérusalem, bien sûr. Vos yeux à Gaza s'appellent Youssef, qu'on entend évidemment très souvent encore ce matin sur France Inter. Avant Youssef, il y avait Rushdi Al-Sarraj. C'est le premier Rushdi à qui on parle quand on arrive à Jérusalem et qu'on veut aller à Gaza. C'est aussi le premier coup de fil que vous avez passé. Faut nous raconter un peu de cette histoire, Thibault.
Oui, ça commence comme ça. Je suis arrivé en septembre 2023, seulement 5 semaines avant le massacre du 7 octobre. Et en fait, comme tout nouveau correspondant, j'ai tout simplement commencé à appréhender le territoire. Alors Israël, évidemment, la Cisjordanie occupée, et puis évidemment Gaza. Et c'est donc avec Rushdie que j'ai échangé pendant des semaines, à distance, via WhatsApp. D'abord pour comprendre tout simplement comment on pouvait travailler à Gaza, quelles étaient les limites pour ne pas lui le mettre en danger. Et puis surtout pour obtenir le fameux sésame du Hamas et pouvoir travailler dans l'enclave. Permis de travail qui n'est jamais arrivé puisque l'organisation islamiste, on ne le savait pas évidemment, mais préparait à ce moment-là l'attaque du 7 octobre. Vous dire aussi que ces discussions n'étaient pas que professionnelles puisque Rushdie venait d'être papa d'une petite fille, Dania, et que moi aussi, ma compagne venait à ce moment-là d'accoucher de ma troisième fille. On s'est donc beaucoup parlé à distance, mais on ne s'est jamais rencontrés.
Rushdie est mort en octobre 2023. C'est sa femme qui désormais vous envoie des messages. Elle s'appelle Shulour Eila et elle raconte d'ailleurs la mort de Rushdie.
D'une main, je tenais mon mari et de l'autre, je tenais ma fille. À un moment, mon mari s'est mis devant ma fille et moi pour nous protéger. Et c'est là que l'attaque nous a touchés. On était en plein milieu du bombardement, complètement terrifiés. Après, j'ai senti l'odeur du béton brûlé. On n'y voyait rien. J'ai sorti mon téléphone portable pour l'utiliser comme lampe de poche. J'ai touché ma fille et j'ai senti qu'elle bougeait. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas non plus. Quelque chose de lourd sur mes jambes m'empêchait de bouger. C'était mon mari. Avec mon beau-frère, on a réussi à le sortir des décombres. Jusque dans la rue. Il était vivant, mais il respirait difficilement. Il avait une ouverture sur son crâne d'un centimètre et demi. Je pouvais voir son cerveau. Ça nous a pris un quart d'heure de le porter au milieu des bombardements jusqu'à l'hôpital. Peu après notre arrivée, on nous a annoncé que mon mari était mort. Je n'ai pas pu assister à son enterrement. J'étais encore en état de choc. Au premier cessez-le-feu, je suis allée sur sa tombe. C'est tout ce qu'il reste de lui pour ma fille et moi, le seul moyen d'être proche de lui. Malheureusement, aller se recueillir sur sa tombe est devenu un luxe aujourd'hui, à cause de la guerre et des ordres d'évacuation.
On est content d'avoir pu lui rendre hommage, Thibault. Et d'ailleurs, Shulour Eila, elle a repris le flambeau de son mari désormais.
Ouais, exactement. En tant que journaliste, elle continue de témoigner, dit-elle, pour l'histoire et puis aussi tout simplement pour vivre. Parce que c'est l'argent qu'elle gagne en vendant ses images et ses récits qui lui permettent de vivre et de faire vivre Dania. La fillette avait 11 mois au moment de la mort de son père. Elle a presque 3 ans aujourd'hui.
Merci beaucoup Thibault Lefèvre, merci vraiment. Est-ce qu'on essaye de terminer en musique? Il y a un musicien dans votre film d'ailleurs qui est très touchant, qui a sauvé des instruments, qui fait jouer les enfants. Il dit, c'est assez drôle d'ailleurs, avant ils chantaient mieux, mais enfin là on les prend tous parce que du coup ça leur fait du bien. Bonsoir Cyril Sauvage.
Bonsoir.
La BO du Monde, d'habitude c'est vous qui clôturez le lundi. Il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas ce soir non plus. Vous y avez pleinement votre place puisqu'on va rester à Gaza avec l'itinéraire d'un rappeur palestinien originaire de Gaza. Désormais, il est en exil et il s'appelle Saint-Levant.
Il avait 7 ans lorsqu'il a quitté Gaza. Il en a 25 aujourd'hui, mais son passé continue de le hanter au moment où sa terre natale est dévastée par les bombes israéliennes. Depuis le 7 octobre, ce jeune rappeur Saint-Levant, installé aux États-Unis, a décidé de prendre la parole, de s'engager davantage pour Gaza. Et il le fait en replongeant dans ses souvenirs d'enfance. غزة بالله بيبي فلسطين عسنسان وبنت بلادي عجباني فضلكم احكوا مش سامع continue à parler on vous entend pas 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 continue à parler on vous entend pas 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 Un père palestinien, une mère franco-algérienne, Marwan Abdelhamid, grandit dans l'hôtel que tiennent ses parents sur le front de mer à Gaza. Nous sommes au début des années 2000 et l'hôtel Dera est un lieu très prisé. C'est un peu le QG officieux de la presse internationale venue couvrir le conflit. Aujourd'hui, cet ancien hôtel est en partie en ruine, détruit par les combats. La famille Abdelhamid, quant à elle, a quitté Gaza il y a bien longtemps pour la Jordanie. Marwan, lui, est parti faire ses études en Californie et c'est là-bas qu'il s'est lancé dans le rap.
Mais même très loin du Proche-Orient, Cyril Saint-Levant, il puise son inspiration dans les textes comme dans les sonorités musicales d'ailleurs.
Et oui, sur la pochette de son dernier album, une photo de la façade de l'hôtel des rats. Et sur le morceau titre, Saint-Levant partage le micro avec un autre rappeur gazaoui, le tout jeune MC Abdoul, qui s'est fait connaître il y a quelques années avec une vidéo virale dans les ruines de Gaza.
Hey, hey, big dreams, heavy nights, praying that my family can stay alive. Imagine trying to fly with no wings, but I promise you the caged birds sing in the wintertime. Heavy nights, big dreams, praying that we make it to 16. And even though I travel the world, Bishamlet is a Palestine.
Le propos est politique, militant, mais pas seulement. Saint-Levant laisse toujours parler sa sensibilité. Sa musique est dansante. C'est un drôle de mélange entre le hip-hop actuel, le R&B, des mélodies orientales et des textes qui cognent. Dans un même morceau, il peut jongler dans la même phrase entre l'anglais, le français et l'arabe, et tout ça donne à sa musique une dimension universelle.
Je me sens déraciné, je viens du pays qui donne vie aux olives. Notre terre a séché, y'a blad el hazin, allez mes chariba alay, je donnerai tout pour te voir. Y'a un sayadi, rawa zikra y'a del hadim, faites-moi visite ce soir.
Au concert de Saint-Levant aux États-Unis ou en Europe, les kéfiers, les drapeaux palestiniens sont partout. Sa musique est devenue un cri de ralliement pour les défenseurs de la cause palestinienne. Le jeune chanteur, lui, observe avec une infinie tristesse le drame vécu par les Gazaouis. Son espoir, c'est de revenir un jour à Gaza, la terre de son enfance, pour tout reconstruire.
Le c'est beau, Cyril, merci beaucoup. J'ai entendu au début, surtout, continuez à parler, on ne vous entend pas dans les paroles de ce jeune homme. Merci vraiment. Merci Vincent Lemire.
Merci
Yalad Alastal pour l'honneur de Gaza. Demain, le 27 mai, pour ceux qui sont à l'Institut du Monde Arabe, à 20h. Et sinon, le film est distribué par Matmov. Donc si on va sur le site de, d'Un Jour dans le Monde, on trouvera les endroits...
Toutes les informations sur le film.
Et sur l'Institut du Monde Arabe, Trésor sauvé de Gaza. Ouais, 5000 ans d'histoire, exposition sublime jusqu'au mois de novembre. Et un site internet qui s'appelle Gaza Histoire, inventaire d'un patrimoine bombardé, où les gens vont découvrir qu'il y avait des cinémas, des écoles, des universités, voilà, qu'on célèbre aussi la vie de Gaza.
Et bien voyez, profitez-en pour faire d'une pierre deux coups le film et l'exposition si vous êtes à Paris. Merci beaucoup encore une fois à tous les deux. Le 18-20 continue et la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Filly juste après. Il y aura le téléphone sonne. Philippe Lefébure, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20, on parle reconversion, Philippe, ce soir.
Virginie, j'ai entamé une reconversion professionnelle il y a 2 ans et ce ne fut pas du tout de tout repos, mais aucun regret, je viens tout juste d'ouvrir mon premier atelier labo, je fabrique des biscuits personnalisés, je donne des cours.
Ah ben formidable, allez, à tout de suite.